Salut à tous, re-bienvenue sur le site lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe, le premier en 2024. Après deux infidélités sur le cirque blanc, notre podcast revient sur le cirque un peu blanc de la Super League au vu de la météo sur les terrains par chez nous ces jours. Au programme aujourd'hui, forcément, le Servette FC et son mercato, le Lausanne Sport qui n'a pas trop changé, Yverdon et son orgie de transfert, le SLO qui s'est remis en selle, et on va aussi parler du foot suisse en général. Pour ce faire, j'aurai Daniel Visentini qui sera là avec nous de retour de l'entraînement du SFC, mais aussi Florian Vanet du Sport Center également, ainsi que Daniel Romano de Blue Sport. Bonne écoute des trois quarts d'heure de cette équipe. C'est parti, salut Daniel et salut Daniel.
Ben salut, le premier Daniel.
Le deuxième.
Et salut Florian, comment vas-tu ?
Ben écoute, ça va très bien, je te remercie.
Donc c'est un survivant de la tuilière et une des rares personnes qui a eu le droit d'entrer dans ce stade ce week-end. C'est beau.
Oui, je m'attends Daniel. À qu'il y ait 10 degrés d'ici demain le match d'hiver dans ce sport, donc très heureux.
Pas mal. Daniel Visentini, on va commencer par toi. Tu reviens de l'entraînement du Servette FC. Quelles sont les dernières nouvelles? Parce que ça a pas mal bougé à Servette et ça pose pas mal de questions.
Ben ouais, ça a bougé seulement dans un sens jusque-là. Ça a bougé dans le sens des départs. Et Servette a perdu évidemment un joueur capital pour lui, Chris Bedia, qui est parti à Union Berlin. C'était dans l'air du temps. C'était le seul moyen d'ailleurs pour Servette d'obtenir quelque chose financièrement. Ils en ont tiré un joli prix, 2 millions pour son départ. Sur ces 2 millions, il va falloir verser un pourcentage à Charleroi, puisque c'était le deal quand il est venu de Charleroi à Servette. Néanmoins, ça fait quand même un joli pactole financier. Malheureusement, ça laisse un gros vide devant. Chris Bedia, c'est un but sur 3 de Servette, 10 sur 30. Et sur les 5 derniers matchs, c'est un but sur 2, carrément. 6 buts sur les 5 derniers matchs qu'il joue, avec 12 buts marqués. Donc, c'est un gros vide devant, d'autant plus que Crivelli est blessé et ne peut pas jouer à Winterthur demain soir, le match en retard qui a été renvoyé samedi, reporté à ce mardi, et il ne reste finalement comme attaquant nominal que Jérémy Guimeneau. Donc oui, il faut considérer, et j'en ai parlé avec lui, que René Weiler est un peu, il n'est pas agacé, mais il n'est pas content, comme il dit. Voilà, moi je suis un entraîneur, dans cette circonstance-là, je ne suis pas content de ce qui se passe parce que j'aimerais bien évidemment avoir un attaquant à disposition et pas qu'un attaquant. J'ai besoin aussi d'un défenseur. Nicolas Vouillot est parti. Donc, ça veut dire que si Rouillet ou Séverin se blessent, il n'y a plus de défenseur nominal et il faudra à nouveau bricoler. Vouillot prenait cette place-là. Il avait cette opportunité-là. Donc, voilà, Servette reprend avec 11 matchs sans défaite dans la série, dont 7 victoires en championnat. Mais avec, ma foi, des petits points à régler le plus rapidement possible.
Dany, c'est un peu souvent le problème des équipes en Suisse comme ça. Il y a des trucs que tu ne peux pas refuser, non seulement les fins de contrat, mais aussi il y a des sommes qui te font vite une grosse partie de ton budget. Comment fait Servette maintenant? Il faut se précipiter pour acheter des remplaçants? Il faut attendre la fin du mercato, les bonnes affaires? C'est complexe, hein?
Alors, bon, Daniel a à peu près tout dit tout à l'heure. Moi, ce que je pense, c'est que tu perds effectivement un gros atout sportif et offensif avec le départ de Bedia. Mais je m'interroge quand même sur le fait que les solutions, elles peuvent aussi être déjà là, sous les yeux de tout le monde. Parce que tu as Guimeneau, tu as Crivelli. Alors là, Daniel sera peut-être mieux que moi quand… Crivelli sera de retour, mais tu as des solutions que tu peux utiliser. Tu as coûté ça, tu as quand même Stevanovic qui peut aussi être un joueur offensif important. Alors, j'irai pas me ruer sur n'importe quel attaquant parce que c'est déjà tellement difficile de trouver un numéro 9. Servette le sait d'ailleurs mieux que personne, et là il l'avait, donc je me ruerai pas sur n'importe qui. Donc la seule bonne affaire pour moi, la seule bonne affaire actuellement aujourd'hui, un vrai numéro 9 qui serait une bonne affaire, ce serait Jean-Pierre Nsamé, mais autrement j'irai pas tête baissée sur n'importe quel joueur qui devrait s'adapter, connaître le championnat, etc.
Ah, mais ils ont raison. ils ont besoin quand même d'avoir un élément supplémentaire en attaque, Servette.
Alors, ce qui me dérange, en fait, ou ce qui me chagrine plutôt, c'est que en faisant le choix, mais je comprends les choix des départs de Vouillot et de Bedia, les choix financiers, mais ce que je regrette, c'est que est-ce que maintenant, tu peux quand même être toujours cet outsider qui peut aller chatouiller IB? Moi, c'est ça mon plus grand regret, parce que je voulais aller au...
Ça dépend de qui ils vont pouvoir prendre. Et, voilà. et pas tout mettre ses œufs dans le même panier. C'est un peu le problème actuellement pour le recrutement de Servette et pour les renforts qui doivent venir. Autrement dit, pour en avoir parlé avec René Weiler tout à l'heure, il est clair que si Servette doit prendre toute son enveloppe à disposition pour prendre le seul Nsamé, ça va poser problème parce que lui, il a besoin aussi d'avoir un backup pour la défense centrale, voire encore quelqu'un au milieu. Puisque Doulin est toujours blessé et que là, il va falloir bricoler. On doit, par exemple, suspendu pour le match à Winterthur. Peut-être que c'est le jeune Magnin qui va jouer en numéro 6 avec Cogna au milieu. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et il se lamente pas, René Weiler, mais il est conscient qu'il va devoir bricoler. Et il n'a pas envie, a priori, que toute l'enveloppe soit utilisée pour le seul engagement de Nsamé, si c'était possible. Bien évidemment, en tant qu'entraîneur, il est le premier à dire « Moi, si on me donne Nsamé, bien sûr que je suis heureux, mais je n'ai pas besoin que de Nsamé, le malheur est là. » Donc, il va falloir jongler à Servette avec les budgets et avec les opportunités.
Mais les gars, je me pose quand même une question par rapport à ça, et je suis intéressé par ce que dit Dani par rapport au manque de compétitivité maintenant de Servette potentiel. Servette a... Enfin, le choix de Servette de laisser partir Bedia est évidemment compréhensible et ça fait rentrer pas mal d'argent. Et si le joueur veut partir, ma foi, il part, ça se passe pas mal comme ça. Maintenant, est-ce qu'on s'est quand même un peu posé la question du manque à gagner potentiel? Parce que là, il y a peut-être, on parle de 2 millions, mais on sait que c'est pas vraiment 2 millions parce qu'il y a une partie qui part à l'ancien club de Chris Bedia. Daniel, tu l'as écrit dans ton dernier papier, sauf erreur. Et maintenant, on sait que Servette aura peut-être un peu plus de peine à aller accrocher la place de leader, peut-être qu'on n'en parle plus, mais une place en qualif pour la Champions ou pour l'Europa League, et tout ça, ça rapporte des sous. Je me demande, est-ce que ça a été pensé?
Mais enfin, grosso modo, c'est 10% de ton budget de 2 millions. Donc, si tu gardes Bedia et que Servette termine champion, alors tout le monde applaudit les deux mains, sans doute, mais Bedia part quand même libre. Et puis, si tu gardes Bedia, mais que Servette termine quatrième, tu te dis quoi? Tu te dis, j'ai refusé 2 millions et il part gratuit maintenant, après avoir marqué 10 buts de plus.
Ouais, mais s'il reste et que Servette finit premier, tu vois?
oui, mais alors là, on est dans les spéculations et moi, je comprends parfaitement, en fait. Bedia avait envie de partir. C'est bien pour ça qu'il a refusé les prolongations de contrat. Donc, il a fait sa part à Servette. Il a très bien remplacé Greg John Kay. Il est devenu le meilleur buteur du championnat en cours actuellement. Il a envie de partir. Il est en fin de contrat. Servette est obligé de négocier. Voilà. Et je pense que la négociation a été assez bonne.
Oui. Dani, tu ne penses pas que c'est encore les limites de ce Servette-là? De ne pas justement pouvoir avoir... mettre de côté ce million et demi, et d'aller jusqu'au bout de la saison avec?
C'est la différence entre IB et Servette aujourd'hui, où tu as IB qui peut te dire non, on ne donnera pas, on ne vendra pas Jean-Pierre Nsamé à la concurrence, il n'ira pas à Servette, il n'ira pas à Bâle. C'est ce que Servette ne peut pas encore faire aujourd'hui. Mais cela dit, le travail que fait Servette ces dernières années est assez extraordinaire. Ça se voit... déjà en Suisse, dans la progression des résultats, l'Europe et tout ce qu'on a pu voir cette saison également. Mais oui, c'est clairement, c'est une limite, mais c'est une limite, un nouveau palier à franchir. Mais ce que j'aime, c'est que quand tu parles avec les dirigeants servettiens, ils en sont eux-mêmes conscients et ils te le disent eux-mêmes. Oui, on a encore ce step, cette limite, mais ça veut dire qu'en fait, il reste de la marge de progression à tous les niveaux.
Bien sûr, mais IB, la différence, en fait, elle est budgétaire. IB peut mettre sur son banc des joueurs qui sont extraordinaires, qui seraient titulaires partout ailleurs en Super League. Et j'en veux pour preuve le cas Nsamé. Nsamé est actuellement pas titulaire numéro 1 à tous les matchs, même s'il l'a été à la reprise là. Il n'est pas le titulaire naturel de IB à la pointe de l'attaque. Et ma foi, ben, ça raconte un peu le banc quand vous avez des bancs longs comme le bras que Servette ne peut pas s'offrir encore. En revanche, où Servette aurait pu être un peu plus proactif, à mon sens, c'est dans l'anticipation. On savait que Chris Bedia ne prolongeait pas son contrat, qu'il serait libre à la fin de la saison, qu'il allait partir. Vraisemblablement, on pouvait se douter qu'il aurait l'opportunité, après ses performances, de partir cet hiver. Là, il aurait peut-être fallu anticiper et déjà prendre quelqu'un, indépendamment, même sans savoir si Bedia allait partir ou pas, de prendre quelqu'un pour l'intégrer au groupe, un attaquant, et anticiper l'avenir. Cette anticipation, c'est aussi la grande force d'IB, et c'est ce vers quoi doivent tendre des clubs comme Servette.
Mais est-ce que peut-être en prenant, je pose la question comme ça, en prenant Guimeno l'été dernier, il n'y avait pas déjà une sorte d'anticipation à ce moment-là? Parce que tu avais déjà Crivelli, bon, bah, Rodelin, non, je crois qu'on a tous compris que c'est mort, quoi. Mais est-ce que cette anticipation dont tu parles, on ne pourrait pas considérer que c'est Jérémy Guimeno?
On peut, mais à partir du moment où on sait que Bedia ne va pas prolonger, et ça, on parle du printemps dernier déjà, Bedia refuse les premières prolongations. À ce moment-là, on sait que Bedia va être libre juin 2024. À partir de là, on peut se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? On voit que Crivelli est souvent blessé. On sait que Guimeno peut être numéro 9, mais n'est pas forcément naturellement un 9 buteur à la façon de Bedia. Donc, on perd une pointe efficiente à la pointe de l'attaque, comme pouvait l'être Crivelli dans un autre registre que Bedia, mais Bedia aussi. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, ben voilà, Crivelli est souvent blessé, Bedia va sans doute nous quitter. Ben là, peut-être que dans le courant de l'automne, on aurait pu chercher quelque chose, anticiper. Voilà.
Mais parce que pendant le courant de l'automne, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est justement le fait d'avoir Crivelli, Bedia devant titulaire et de devoir en fait déplacer Guimeno un poste qui n'était pas le sien. Donc là, maintenant, on se retrouverait
On a vu qu'à droite, c'était compliqué. Voilà. C'est vraiment dans l'axe, voire en soutien, qui peut amener, faire la différence comme il a su si bien le faire à Saint-Gam. Florian, j'ai juste envie de t'entendre sur le profil pour remplacer Chris Bedia. On sait, hein, Jean-Pierre Nsamé, c'est le rêve. Alors, à savoir si IB bluffe pour en obtenir plus ou si vraiment c'est non pour la Suisse définitivement. Mais Florian, pour toi, il faut vraiment un neuf, une vraie pointe. Le profil, c'est ça.
Bah, j'ai envie de te dire que oui, mais pas nécessairement, parce que d'un côté, tu as à côté de toi potentiellement Jérémy Guimeno, qui a un style plutôt léger, technique, etc. Et à la limite, tu as de l'autre côté Enzo Crivelli, qui est lui plutôt un cactus, qui va te garder les ballons dos au but. Donc, j'ai envie de dire que peut-être que Servette a un peu l'embarras du choix par rapport à ça, même si... Le profil type est quand même un peu restreint.
Mais on l'a vu quand même, hein, l'intérêt pour Servette, c'est d'avoir une vraie pointe qui prenne de la place. Crivelli prenait de la place, le cactus, comme tu viens de le dire. Bedia prenait de la place aussi, hein, et c'était quelqu'un de très puissant, et il était capable d'avoir une très belle finition et très puissant aussi. Guimeno, il est un peu moins dans ce registre. Comme tu l'as souligné, il est plus aérien, plus léger, il va être plus dans la déviation. Et il était intéressant, notamment quand il a retrouvé un petit peu les qualités qu'on lui attendait depuis le début de la saison, en fin de premier tour, là, en fin d'année dernière. Eh ben, Guimeno a marqué deux buts, il a fait aussi un assist pour Bedia. Bedia lui en a fait aussi, donc ça veut dire qu'il y a une complémentarité qui peut se mettre en place avec un attaquant axial qui prend de la place et avec un Guimeno qui peut trouver des espaces autour en déviation ou dans la profondeur. Et sans cette pointe-là qui prend de la place, Servette, dans le style de jeu que veut Weiler, désolé pour le lapsus, que veut Weiler désormais, très vertical, où on touche tout de suite et rapidement la pointe, eh bien, il y a justement un déficit de ce joueur-là.
Dani, je ne vais pas te la faire à toi, mais on sait très bien, en mercato, un numéro 9, absolument toutes les équipes du monde en cherchent, voire Marseille qui va trouver à Bodø/Glimt un joueur complètement inconnu. C'est très difficile de trouver la perle.
Bah oui, c'est déjà difficile en été, donc encore plus en hiver pour le mercato qu'on appelle souvent le mercato de réparation. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, personnellement, je ne foncerais pas tête baissée vers n'importe quel numéro 9, n'importe quel profil, parce qu'il faut vraiment trouver la perle rare. Et je ne suis pas fan des prêts de 6 mois. Moi, je n'aime pas trop ces prêts de janvier à la fin de la saison, parce qu'en fait, le joueur, il faut que tu aies un joueur qui ait déjà envie de jouer que quelques mois dans cette équipe-là. Il ne se sent peut-être pas forcément concerné. Il est en retard. Il n'y aura pas les connexions avec les autres joueurs. Donc, je ne suis pas hyper fan de ce genre de prêt-là. Donc, il faudrait plutôt aller chercher un neuf qui puisse être soit acheté ou soit prêté avec option d'achat. Mais encore une fois, Bedia, tu ne peux pas le remplacer. Tu peux pas le remplacer comme ça en un claquement de doigts. Il était tellement important aussi. Même quand Servette jouait mal, des fois, il suffisait que tu lui donnes une fois un ballon puis il le transformait en or. Quoi. C'était ça que j'aimais chez lui.
Et c'est peut-être là qu'on doit apporter une toute petite nuance par rapport à ce qu'on a dit avant. Je suis complètement d'accord avec la critique de Daniel sur l'anticipation de Servette. Maintenant, ce n'est pas parce que Servette n'a pas signé un attaquant juste après avoir perdu Chris Bedia qu'il n'a pas prospecté des joueurs, etc. Il n'a pas essayé de chercher. Et on sait que trouver un numéro 9, ce n'est pas toujours l'évidence. Et voilà, ça ne veut pas dire que Servette a les mains dans les poches depuis 6 mois, etc. Mais il n'a peut-être juste pas réussi à faire aboutir le dossier non plus.
Florian, plutôt, Dany dit très justement, aller trouver quelqu'un qui n'est pas titulaire, pas content ou qui va être prêté comme ça, c'est difficile. Mais je ne sais pas, toi qui arpentes pas mal de terrain, est-ce qu'en Challenge League, comme ça, il y aura un profil qui peut s'en rapprocher, qui peut être intéressé par ce beau challenge, parce que Dieu sait qu'il y a des choses à jouer. Et puis moi, je me dis qu'un Stojilkovic qui est un peu en rupture de banc et qui a montré à Sion avant de partir, c'est un vrai joueur de Super League, un profil comme ça peut être intéressant aussi.
Ouais, j'adorais le revoir en Super League. Et comme ça ne se passe pas tout le temps super bien pour lui en Allemagne, ça pourrait être intéressant. Tu me poses un peu une colle. J'ai pas tous les attaquants en tête de Challenge League. J'ai les romans et je me dis qu'il n'y a pas ce qu'intéresse Servette dans les contingents des équipes romandes.
Il aurait fallu se dépêcher sur Brian Beyer, quoi. C'est ça que tu veux nous dire.
Bref, non, mais même pas. Franchement, non, je pense que c'est vraiment pas le style qui conviendrait. Même si j'adorais voir Brian Beyer au Servette, je suis pas sûr que dans ce projet-là, il ait eu vraiment sa place, en tout cas pas en pointe. Quoi.
Daniel, toi, c'est quoi?
Ouais. Vas-y. Non. J'y pense juste maintenant, là, comme ça. J'ai été bluffé par Kurem Ateng hier. Je me suis dit, le slow est allé le chercher. Alors, oui, ça a marché 3 ans en Challenge League. Je trouvais que c'était un super joueur de Challenge League. D'ailleurs, il finit la saison passée avec 16 buts, 6 assists, je crois, un truc comme ça.
C'est un peu le même profil. Ouais.
Voilà, il part en deuxième division belge et puis ça ne marche pas. Là, il revient hier. Alors, il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, ça c'est clair. Mais il te fait un but, une passe de but, il prend de la place, il connaît déjà la Suisse, mais moi, ma question, c'était, est-ce qu'il est capable de livrer la même marchandise en Super League? Et puis, alors, sur ce que j'ai vu hier, honnêtement, je dois vous dire que j'ai été assez bluffé, même si Lugano passe complètement à côté de sa première mi-temps. Mais ça me vient juste comme ça, là, je me dis, ce genre de pari-là, de profil-là, c'est d'ailleurs aussi un prêt avec option, tu vois? C'est ce genre de joueur-là qu'il faudrait aller chercher.
Mais ouais, c'est ce à quoi Servette va être confronté. De toute façon, de deux choses. D'une, soit Servette arrive à signer quelqu'un comme Jean-Pierre Nsamé, pour ne pas le nommer. À ce moment-là, il arrive, il est Jean-Pierre Nsamé, on sait ce qu'il est capable de faire, et il a le potentiel immédiat pour être quelqu'un de nuisible aux défenses adverses. Ça, c'est une certitude. Ça a un coût. Est-ce que ce coût est en adéquation avec tout ce que veut faire Servette pour se renforcer à différents postes? Toute cette négociation va avoir lieu, si elle a lieu, avec IB, si IB est d'accord de négocier ou s'il n'est pas dans le bluff, comme le soulignait Robin juste avant. En revanche, si ce n'est pas le cas, Servette va trouver un attaquant qui pourra devenir un attaquant. Mais on sera dans le devenir. Il ne faut pas oublier que quand Grayson Kay arrive, avant d'être performant, il lui faut plusieurs mois. Quand Chris Bedia arrive, il lui faut aussi quelques mois. Il se blesse, après il revient. Et c'est seulement en 2023 qu'il commence à trouver un rythme de croisière. Et c'est à ce à quoi est condamné Servette actuellement, précisément encore en hiver, avec la difficulté de trouver un attaquant. Mais voilà, il faudra peut-être se montrer patient. Servette va peut-être trouver un attaquant qu'on ne connaîtra pas trop. Et ce sera peut-être un pari qui sera payant pour la suite du chemin que Servette veut se tracer.
Bien, on va vite rendre hommage à la Swiss Football Night, mais parmi les joueurs de Challenge League sélectionnés, il n'y a pas un seul attaquant parmi les trois joueurs de la saison. Et ça dit aussi, enfin, pas un seul attaquant de pointe, pardon. Et ça dit aussi que je pense que la plupart des numéros 9 de Challenge League sont un peu courts pour jouer les premiers rôles en Super League actuellement.
Très bien, bon, on passe tout de suite au quart d'heure vaudois. Florian, je reste avec toi. Un match à la Tuilière comme on en a connu tant, et là en plus avec un public plus que clairsemé. J'ai l'impression que le LS n'a pas changé cet hiver.
disons que c'était un peu le paroxysme de ce que, enfin, du visage qu'on a vu du LS au premier tour. Enfin, c'est absolument pas français ce que je viens de dire, pardon, mais, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, là, ils ont vraiment, enfin, ce match, ils le jouent 15 fois, ils le gagnent 14 fois, vraiment. Ils étaient supérieurs sur toute la ligne. Et en même temps, c'est vrai, ils arrivent à être l'équipe qui relance Saint-Gall à l'extérieur, ce qui semblait à peu près impossible. Et oui, c'est vraiment dommage. Mais de nouveau, enfin, il y a pas grand chose à dire. Tout ce qu'on a vu du LS dans le jeu samedi soir, c'était bien, quoi. J'ai beaucoup de peine à critiquer le LS pour son manque de réalisme sur ce match, parce que franchement, ce qu'on a vu, la façon de se dépêtrer du pressing Saint-Gallois à une touche de balle plusieurs fois, mais c'était, moi, je demande que ça jusqu'à la fin de la saison. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais tu vois, on ne peut pas les blâmer parce que Calissé n'arrive pas à mettre son à contre un. Quoi. C'est...
Mais si, si.
Bah, si, quand même.
Si, si. Si, si, parce que en fait, c'est un problème qui est devenu récurrent. En fait, on entend Ludovic Magnin à chaque fin de match, même les matchs de préparation qu'ils ont pu faire avant la reprise, bah, nous proposer systématiquement le même refrain. Et pour le moment, bah, il a les joueurs qu'il a et il y a un gros problème de réalisation devant, parce que tu restes quand même sur un seul but marqué sur les quatre derniers matchs. C'est vraiment familier.
Oui, mais tu veux faire quoi? Tu veux aller dire à Calissen de réussir à marquer 5 contre 1? Tu veux dire, oui, à Brighton Labo de ne pas tirer sur le poteau, mais de tirer 30 cm plus à droite?
Calissen, je suis... Bah, alors écoute, après moi, Calissen, il faut aussi un peu relativiser. C'est vrai qu'il il est le meilleur buteur du LS, mais il a marqué une certaine quantité de pénalty aussi dans ce qu'il a pu marquer. Moi, je lui en veux énormément pour ce raté de samedi soir, parce que le moment dans lequel ça, la minute à laquelle ça se déroule, ça change, ça peut changer l'histoire de ce match, et puis on est vraiment dans
la saison. Hein.
Bon, moi, je parlerai déjà de la tournure du match. Oui. Ben, moi, j'étais en bord de pelouse, je suis vraiment hyper bien placé. Et à aucun moment, j'imagine que ce ballon ne va pas terminer au fond. Donc, à un moment donné, ce problème de réalisme, il faut qu'il soit souligné, bien sûr.
Mais je pense qu'on se rejoint, Dany. En fait, on est agacé des individualités, mais sur le projet collectif qu'on a eu samedi, on peut pas critiquer ce projet-là, je crois.
Non, mais alors absolument pas.
À force de toujours faire la même chose et d'attendre un résultat différent, on appelle ça comment ?
C'est Einstein qui disait ça.
Oui, je crois. Hein. Daniel, pavé dans la mare, mais le LS bah, fait ce qu'il a fait avec le virage fermé, tu n'avais pas le choix, mais billetterie fermée et tout. Est-ce qu'avec un peu de public, un peu d'ambiance, un public qui pousse, ça n'a pas pu aider aussi le LS à tourner ce match?
Je sais pas, mais en tout cas, Saint-Gall a considérablement aidé le LS. Il y a eu un tel échec dans le jeu de Saint-Gall. C'était terrible à voir. Alors, Saint-Gall se retrouve à l'extérieur et il n'avait gagné qu'un seul match jusque-là. C'était à Lausanne déjà, contre une autre équipe vaudoise, mais à Lausanne. C'était les SLO, sauf erreur. Mm-hmm. Et là, bah, gagne son deuxième match à l'extérieur de la saison par les poils, parce que Lausanne a un déficit dans les 30 derniers matchs. Ça concerne pas uniquement Seine qui rate son face-à-face face au deuxième gardien de Saint-Gall, là. Parce que ce but-là, il doit le marquer 100 fois, évidemment. Mais ça concerne aussi plein de transitions où Lausanne arrive en surnombre, ou en tout cas très idéalement placé pour poser des problèmes. Et il y a un déficit aussi dans la justesse de jeu dans les 30 derniers mètres à Lausanne. Et ça pose un problème. Alors, ça passe souvent par la gauche. Déjà, il y a, voilà, il y a quand même des choses à mettre en lumière sur un Lausanne qui arrive à faire de très belles choses pour se sortir effectivement du pressing de Saint-Gall, qui n'était pas folichon non plus, hein. Je nuance quand même. Mais néanmoins, dès qu'on arrive dans l'espace de vérité, les 30 derniers mètres, il y a du déficit de justesse. Et ce déficit-là, il porte un nom, Alvin Sanchez. Lui, il faisait les choses justes, au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est aussi un manque à Lausanne qui est cruel et qui laisse un grand vide.
La preuve, hein, Lausanne n'a gagné aucun match sans Alvin Sanchez. Ça va être un problème jusqu'à ce qu'il revienne. Et après, comment il reviendra, dans quel état est-ce qu'il reviendra, est-ce qu'il pourra être aussi performant qu'il l'avait été avant sa blessure, ça, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça que le LS va aller chercher son remplaçant qui sera annoncé dans les prochaines heures. Mais moi, j'ai quand même...
Ça sent le petit tweet.
Ouais, c'est le petit Simone Pafundi qui va arriver.
Ah oui, mais à part ça, c'est incroyable, ça.
Ouais.
Oui.
C'est un super joueur. C'est vraiment un super joueur.
Il y a vraiment une option d'achat à 15 millions d'euros sur sa tête.
Ouais.
Mais c'est Nice qui la payera pour le final.
Oui. Voilà, et puis après, il y a...
Nice qui la payera pour l'envoyer à Manchester.
À Manchester. Non, mais c'est, à part ça, c'est un raccourci. Tout le monde a dit ça, mais il n'y a rien de stupide à penser ça, hein. Parce qu'il a tellement de potentiel. J'en discutais encore avec Stéphane Onchaud il y a 3 jours, parce qu'il l'a vu jouer en live la semaine dernière à Coverciano avec l'Italie contre l'Espagne. C'était l'Espagne qui avait gagné 3-0, mais c'est un fantastique joueur. Moi, je l'ai déjà vu quelques fois jouer, et puis il a un super potentiel. Après, c'est la taille et puis la carrure qui risque d'être un petit peu compliquée. Parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer contre des adultes. Il a beaucoup joué avec des gens de son âge. Pour le moment, il a 17 ans, enfin, il a 18 ans au mois de mars. Et il a déjà une sélection avec l'équipe d'Italie. Et c'est un joueur qui va faire beaucoup de bien.
Selon toi, il faut attendre quoi comme parcours ? Donc, 6 mois à Lausanne, puis ensuite Nice et éventuellement Manchester. Tu vois ça comme ça ?
Non, pour moi, c'est trop rapide. Je pense qu'il va rester quand même effectivement une année à Lausanne. Après, j'ai pas d'infos, mais le plus logique, ce serait ça. C'est qu'il reste un an et demi à Lausanne. Il est encore tellement jeune. Il faut finir de le façonner. Donc, il faut faire un petit peu comme Ludo Magnin était allé chercher à l'époque où il était à Zurich. Il était allé chercher Willy Nyonto. C'est un peu pareil, hein, l'histoire. C'est Nyonto qui jouait pas, il arrive en prêt à Zurich, et puis après, tu vois, il part en première ligue, il est maintenant, il ira à l'Euro avec l'équipe d'Italie. Donc, l'idée, j'imagine que c'est un peu ça aussi.
Bon, puisqu'on est dans le mercato et dans les Vaudois, on part quand même à Yverdon, où le mercato est franchement impressionnant. Dani, toi, tu connais un peu de loin Marley Hacquet, on connaît Paul Bernardoni, on connaît un peu moins la recrue du jour, que j'arrive pas à vous donner le nom comme ça de tête.
Vladan Vidakovic.
Voilà, merci. Dani, c'est sur le papier, c'est impressionnant.
Sur le papier, ouais. Sur le papier, mais je demande encore à voir. C'est un peu l'histoire.
Non, disons, par rapport au fils du président et son pote,
le stagiaire.
Hein.
Voilà. Le stagiaire. Ouais, oui. Surtout, alors Bernardoni, c'est un super coup. Hacquet, faut voir mentalement. Voilà, il vient ici. Moi, à part ça, je vous raconte une petite anecdote, ça me prend 10 secondes, mais j'ai dû expliquer à des gens en Italie qu'en fait, Yverdon, c'est pas Everton en français. Parce qu'ils pensaient vraiment que le type avait signé à Everton, quoi. Et j'ai dit non, ça se dit Yverdon, c'est vraiment comme ça, c'est en Suisse. Voilà, il croyait que le type, il allait quand même jouer en première ligue. Et en fait, c'est dans la tête pour moi que ça va se passer. S'il arrive à avoir le déclic, parce qu'il est, voilà, c'est un joueur un petit peu à la Longoï, si je peux me permettre, qui a besoin d'être vraiment bien encadré et puis qui doit travailler, beaucoup, beaucoup travailler.
Puis bon, on rappelle, hein, il avait été échangé à Marseille, enfin 7 millions les deux joueurs contre Tongia, histoire d'équilibrer un peu les comptes. Lui, il y a toujours cette histoire qui lui pèse un peu dessus. Je pense que le calme d'Yverdon, ça va lui faire du bien. Daniel, quand tu vois ce mercato d'Yverdon, c'est quoi, 21e recrue, un truc comme ça, bah ouais, c'est parti, quoi. On est complètement dans le projet et puis bah, ça va être ça.
Bah ouais, bah c'est ce qui me chagrine, quel est le projet? Voilà, si le projet c'est de faire du trading avec des joueurs pour qu'ils viennent et repartent, ben, je ne sais pas ce que ça va donner. Je doute fort que ce soit une porte de sortie pour un club comme Yverdon. Voilà, c'est de l'instabilité à mon sens. Et les ambitions de jeu sur lesquelles on a sacrifié le bon début de saison de Marco Schélibaume, ben voilà, on se retrouve maintenant avec un 21e transfert de la saison et un Yverdon qui ressemble à beaucoup de choses, mais en tout cas pas à l'équipe du Nord Vaudois qu'on était en droit d'espérer ou même d'aimer.
Ouais, qu'on aimait bien. Et là, maintenant, moi, par exemple, je ne comprends pas très bien l'histoire des gardiens. Encore une fois, c'est un problème. Depuis le début de la saison, on a envie de mettre Kevin Martin sur le banc. C'est-à-dire, tu prends Brezza, tu as ce jonglage entre une fois l'un et une fois l'autre. Brezza ne veut plus revenir en Suisse. Alors, il a besoin, on va chercher un autre. Et ouais, pour reprendre un peu ce que disait Daniel, moi, j'ai l'impression qu'on est. Bon, alors, bon, ce côté familial, ce côté. Très, très proche a totalement disparu, mais je trouve que c'est presque un peu un manque de respect pour certains joueurs qui étaient là avant et qui ont largement leur place dans le cadre.
Mais une fois que tu as dit ça, bah, faut quand même se poser la question du contexte yverdonnois, parce que on parle de projet de valorisation de joueurs, de trading, mais un joueur se valorise dans un contexte positif. Et je pense qu'on peut vraiment se demander si c'est ce qui est en train d'arriver à Yverdon avec cette instabilité, avec, disons, ces décisions parfois autoritaires des dirigeants. Avec bah, la diversité des profils qui sont pas forcément toujours faits pour matcher les uns avec les autres. Ouais, je sais pas, franchement, est-ce qu'on valorise vraiment des joueurs comme ça? Peut-être que Yverdon va faire un super deuxième tour et va vendre 4 joueurs l'été prochain pour 10 millions cumulés, mais franchement, je pense que cette question est un peu trop laissée sous le tapis par le club et ça pourrait poser problème.
Mais Florian, il y a un truc qui rassure, entre guillemets, c'est le pédigré des recrues. Moi, je ne pensais pas
Bien
que
sûr.
bah, Bernardoni, par exemple, pourrait être intéressé par passer par Yverdon, quoi.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ils ont sans doute pas fini de nous surprendre à ce niveau-là, quoi. Ils ont vraiment, je pense qu'ils ont le bras long et on risque de voir passer 2, 3 jolis joueurs à Yverdon. Maintenant, est-ce que dans le cœur des fans, ça compensera tout ce qui s'est passé? Je suis pas sûr, mais
Mais
peut-être.
tu ne penses pas qu'ils s'en foutent de ça, les dirigeants, dans le cœur des
Bien
fans?
sûr.
Ils préfèrent la même chose à Gland ou à Fribourg, hein.
Enfin, en fait, je suis d'accord avec toi et en même temps, quand ça a vraiment commencé à grouiller en fin de premier tour, il y a quand même eu une réaction du club. Il y a quand même eu voilà, des dirigeants qui allaient partager la fondue avec les sponsors. Il y a quand même eu 1 ou 2 entraînements ouverts, des discussions qui ont été mises en place entre les fans et les joueurs. Et tout ça a fait suite à quand même certaines critiques dans les médias. Donc, est-ce qu'ils s'en foutent? Je pense qu'au fond, oui, mais sur la forme, peut-être pas tout à fait, tu vois.
Bon, pour finir le tour du canton de Vaud, juste en 2 mots, Dani, est-ce que le slow s'est relancé avec des recrues ciblées, une victoire qu'on n'attendait pas, hein, faut le dire, à Lugano, de retour dans la bataille ou pas?
Bah, on le saura samedi. Pour moi, c'est samedi la réponse. C'est la réception de Winterthur samedi, parce que si tu perds contre Winterthur samedi, ta victoire à Lugano, elle aura servi à rien. Alors, je t'avoue que honnêtement, hier, avant les coups d'envoi du Classiqueur et de Lugano Slow, moi, il y avait 7 points d'écart. J'aurais imaginé 10 à la fin de la journée. Il y en a 5 maintenant entre Bâle et le Slow. Donc, c'est évidemment pas Bâle qu'il va falloir aller chercher, hein. Je pense toujours que malgré tout, même si j'étais très déçu par Bâle hier, je pense que c'est pas Bâle qu'il faudra aller chercher. Mais si Kure-Matenge marque régulièrement, et si ils prennent peut-être un ou deux éléments défensifs, parce que là, pour moi, il faut encore se renforcer derrière, ben pourquoi pas, mais on saura à mon avis, assez rapidement si le slow s'est relancé ou pas. Vraiment, pour moi, la réponse, c'est samedi.
Daniel, j'étais le premier à m'enflammer hier sur la victoire du slow. Il y a quand même un truc qui pourrait peser bien négativement dans la balance, c'est que déjà, les trois prochains matchs, tu n'as pas Ismaël Garbi qui est suspendu.
Et Dani Da Silva.
Voilà, et Dani Da Silva a potentiellement une commotion. Alors, j'ai eu des nouvelles tout à l'heure du directeur sportif qui me dit qu'il est lucide, il va plutôt bien, mais il doit encore passer des examens médicaux. Et voilà, il a quelques antécédents dans le domaine, donc on sait que ça peut jouer aussi. Donc voilà, si Stade Lausanne doit faire pendant plusieurs semaines sans ces deux gars-là, ce ne sera pas la même chose.
Daniel, en un mot, le slow, tu y crois encore ?
Ben, le problème du slow, c'est ils sont pleins de bonnes intentions, ils sont capables de bien jouer, ils sont capables de faire des coups en battant des équipes plus fortes qu'elles. Ils auraient d'ailleurs dû battre Servette alors qu'ils les ont accueillis. Il y a eu un coup franc miracle de Pluquet juste avant qu'ils partent et quittent Servette pour sauver le 1-1 et les apparences. Mais slow est capable de faire ce genre de performance-là. En revanche, pour une équipe comme le slow, c'est la constance qui pose des difficultés. Et être capable de livrer la marchandise semaine après semaine sans discontinuer, être capable de mal jouer sans perdre, c'est quelque chose que slow a de la peine à faire encore. Donc moi, je me demande qu'à être surpris en bien par le slow, mais je pense que ce sera quand même compliqué.
Pour ça, Robin, est-ce que tu veux défendre l'idée que Stade Lausanne doit ouvrir ses tribunes gratuitement à partir de maintenant ou c'est pas...
C'est en cours et j'attends une réponse de M. Dupéret qui devrait arriver depuis la semaine passée. Non, c'est vraiment un truc qu'il faudrait faire, je trouve. De toute façon, c'est pas en faisant payer 10 balles et en donnant une corbeille de fruits que tu fais une différence au niveau de ton budget. Si tu laisses l'entrée gratuite, que tu encaisses 2 bières de plus, ton budget il est rempli. En même temps, c'est pas ça le principal problème là-bas. Et puis, ça donnerait une image de nouveau bien sympathique de ce petit club qui est capable de le faire. J'ai été au Paris FC où vraiment le public est très différent quand c'est gratuit. Et ça peut être très intéressant. Moi, je pense que c'est une expérience qui mériterait largement le coup d'être menée. Voilà, il nous reste 7-8 petites minutes là pour reparler quand même un peu du reste de la Super League. Dani, IB a fait la victoire du futur champion, hein, 1-0 des familles vers la fin. IB, je vous l'avais noté, hein, c'est Rieder, Seziger, Fasnacht qui partent. Là, élimination en Champions, pour équilibrer un peu les comptes, on refile Garcia pour pas trop cher. Mais ça tourne toujours. Il y a eu des renforts, hein, un latéral gauche qui est arrivé direct derrière, un ailier qui est arrivé aussi. IB, c'est le business as usual, comme on dit. Ils vont être champions et la barque est bien menée.
Mais depuis longtemps, sans être convaincant, presque du début à la fin de la saison. Ouais. C'est vraiment un tout petit IB, je trouve. C'est un IB qui est emprunté. Je vois pas trop de ces circuits préférentiels comme on les voyait avant. Je vois pas non plus un grand enthousiasme dans l'équipe. J'ai l'impression que le vestiaire ne vit pas aussi bien qu'il vivait auparavant, et donc un petit IB et qui sera champion peut-être parce que justement derrière c'est pas encore assez costaud, mais je ne sais pas si ça suffira encore longtemps de faire comme ça. C'est cool d'avoir de l'argent et puis d'être toujours champion en Suisse. Mais après, l'étape suivante, même s'ils vont jouer l'Europa League, hein, c'est top contre le Sporting. On verra, ils peuvent encore tout gagner cette saison. Donc, en tout cas en Suisse. Donc on verra bien, mais assez déçu de cette équipe.
Daniel, c'est frustrant quand même ce IB qui est largement prenable, mais qui arrive à faire son petit business de son côté, puis qui n'est pas mis en danger, parce que la Super League, c'est comme ça.
Ouais, mais IB n'est plus le rouleau compresseur qu'il a pu être, qui inspirait une crainte insondable à tous ses adversaires dès que la machine se mettait en branle. Maintenant, c'est devenu un peu moins moins fort, moins puissant, moins lourd, en fait, le IB d'aujourd'hui. Mais on parle quand même d'un IB qui vient de réussir le doublé Coupe Championnat, et puis qui est encore en lice pour le réussir cette année, qui a fait la Ligue des Champions, qui est maintenant en Europa League. Alors oui, sur la manière, on peut ergoter, bien sûr, mais sur les résultats, un peu moins. Cela dit, est-ce que ça suffit aux dirigeants actuels d'IB qui ont connu le faste d'un IB champion avec 15 points d'avance dès le mois d'avril? Peut-être pas, et la preuve en est que le contrat de Raphaël Vicky n'est pas encore renouvelé à l'heure où on parle, et qu'il arrive à échéance à la fin de cette saison. Donc peut-être que lui-même aussi trouve que c'est beaucoup de pression tout ça, et que lui-même a envie de partir. J'ai entendu circuler ce bruit-là, Raphaël Vicky serait un peu usé par tout ça et voudrait peut-être quitter IB. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles le contrat n'est pas prolongé, mais l'un dans l'autre, IB va devoir peut-être se repositionner pour être à nouveau cette équipe qui écrase le championnat, parce qu'elle en a les moyens et elle devrait l'écraser vraiment.
Florian, IB n'écrase pas le championnat, mais en même temps, tu n'as pas l'impression qu'ils prennent les risques. Bâle l'a payé, évidemment, hein, tous les risques qu'ils ont pris. Mais Bâle, au moins, on balait le truc. Et c'était au niveau européen, ça voulait dire quelque chose. Tu avais des recrues un peu plus clinquantes. J'ai l'impression que ce IB ne fera jamais rêver tout court, quoi.
Ouais, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on est un peu biaisé par la saison actuelle, qui est pas forcément la plus folichonne, mais franchement, c'est derrière.
L'année passée, c'était pas extraordinaire non plus. En Champions, là, c'est un miracle qui passe en Europa League, et t'as pas ce petit exploit. T'as même pas eu un embryon d'exploit contre City. Ça a été sympa quart d'heure, puis après, ils se sont fait défoncer. Je trouve qu'il y a pas de magie.
Ouais, je comprends, mais il y a quand même eu des bons résultats en phase de groupe de la Champions. C'est arrivé. Il y a quand même eu des saisons qui étaient vraiment bien maîtrisées. Maintenant, je suis d'accord. En ce moment, c'est moins fun. Et de nouveau, il y a ce truc du rouleau compresseur suisse où tu bénéficies de cet effet boule de neige où tu accumules un peu plus de millions que les autres, un peu plus de puissance. Tu tires les ficelles. On le voit très bien avec le cas d'Ankara Nsemé en ce moment. Mais tu as le droit à un certain nombre d'erreurs. Ils en ont commis une en se faisant voler le titre par Zurich il y a 2 ans. Ils lui ont compensé. Maintenant, ben, voilà, comme Bâle, si tu commets trop d'erreurs, ben, au bout d'un moment, tu te fais rattraper. Ouais, là, je pense qu'on est plutôt sur une pente descendante, je crois, c'est clair.
Mais moi, quand vous parlez de la Champions League, c'est vrai, alors il y a eu des résultats, si on peut les appeler comme ça, cette saison. Je reprends les termes de Florian, mais J'ai mieux aimé les autres campagnes, les 2 autres campagnes de IB qui avaient terminé dernier de groupe qui n'avait pas passé, sur le plan du jeu, les exploits contre Manchester United une fois à la maison, enfin, tout ça, plutôt que cette saison, alors qu'il passe. Mais parce qu'en fait, effectivement, comme disait Robin, jamais je me suis vraiment enflammé, peut-être contre Haïfa en barrage, mais pas plus, quoi.
C'était un brawl d'up en plus, et puis là ils ont quand même une réussite incroyable. À Partizan, s'ils en prennent 3, c'est pareil. Il y a peut-être un peu plus de chance qui fait qu'on croit que c'était mieux construit cette année, mais contre Sporting, moi je sais même pas s'ils veulent faire le retour, parce que je sens que ça va être vraiment horrible. Mais
la qualité est différente aussi, parce que si tu regardes les milieux de terrain que tu avais, enfin tu prends Gamaleux, Souleymane, enfin tous ces joueurs là des précédentes saisons, par rapport à ce que tu as aujourd'hui en qualité, c'est clairement plus pareil. Fasnacht, Oaro, cette qualité-là, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est pour ça aussi que peut-être on est moins enflammé.
Mais Daniel, le foot a quand même changé, a évolué, on voit. Hein. C'est plus compliqué de devenir le nouveau FC Bâle, entre guillemets. Parce que là où Bâle allait chercher un joueur à 10 millions, où c'était un investissement énorme à l'époque, maintenant, ces joueurs, tu ne les touches plus.
Non, c'est les réalités du football suisse aussi qui nous rattrapent. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué d'être compétitif à haut niveau, et à ce titre, on voit ce qui se passe quand on fait du trading. C'est bien joli de vouloir vendre de Diouf, Ndoye, Amdouni, etc. On voit dans quelle situation se retrouve Bâle quand il fait ça. Donc, c'est systématiquement des paris. Ça ne fait pas du bien pour le football suisse. Où est la formation du FC Bâle actuellement? Alors, on peut bien se louer sur le Bâle qui a été aux portes de la finale de la saison dernière. Mais en fait, Bâle a eu beaucoup de chance aussi. Hein. On se rappelle quand même d'un match gagné par les poils au tir au but pour se qualifier. Donc tout ça, c'est fragile et ça raconte la fragilité du foot suisse. Et dans cette fragilité-là, on voit de plus en plus de clubs qui veulent maintenant faire du trading, ce qui n'encourage pas les jeunes à avoir une place dans les contingents de Super League. Et c'est pas facile justement maintenant pour un jeune d'avoir une place quand on voit que la formation de Bâle qui a pu créer des Chaka, des Shaqiri, des Sommer, et j'en passe, des joueurs qui ont été utiles à la Suisse, à l'équipe de Suisse, en l'état actuel des choses, la formation baloise, c'est plutôt des 15 ou 16 ans, ils partent à l'étranger, ils sont pris en Allemagne le plus souvent, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir aucun débouché en Super League avec le FCB. Et le FCB s'y oppose même pas. Il y a eu un abandon quelque part de ce côté-là. Et ça, c'est inquiétant. Ouais.
Bon, messieurs, je pense que c'est un super mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Bon courage sur les terrains ces prochains jours. N'oubliez pas de mettre vos collants et on se retrouve dans deux semaines après une petite parenthèse ski la semaine prochaine. À bientôt.
Salut. Ciao, ciao.